Il est 7h en Avallon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le samedi soir, nous avons un moment de partage, un moment de rencontre, de discussion, d'échange. Vous êtes nombreux ce soir. Que se passe-t-il en Avallon en ce moment? Alors, il y a une retraite que je conduis, juste là, je suis au courant. Il y a la retraite permanente. Vous êtes un certain nombre, je pense, dans la retraite permanente. Et je crois une session d'introduction.
Un week-end d'introduction à la méditation dans le cadre de la retraite permanente et une session de présence au MFT, une semaine.
Et une semaine d'entrée dans la pleine présence. Donc, comme nous sommes dans une période de plus d'échanges, de discussions, la meilleure façon est peut-être de vous donner la parole si vous avez des points que vous souhaiteriez aborder. Est-ce que parmi les coordinateurs et directeurs des programmes, y aurait-il eu des choses ou des points qui se seraient dessinés? Et qui sont les coordinateurs? Lama Mingyur? Lama Mingyur, es-tu là? Lama Mingyur n'est pas là.
Mais par contre, les coordinateurs de sa session sont là, c'est Brigitte et Jean-Michel.
Y a-t-il des points ou des... Rien... Bon...
Et je crois que Lama Lundrup a dû répondre aux questions du week-end d'introduction.
Oui. Ouais. Il y avait un groupe d'échange tout à l'heure.
Très bien. Alors, je vous laisse considérer s'il y a des points que vous souhaiteriez aborder. Nous avons aussi avec nous en direct des internautes qui ont aussi des questions ou des points, des remarques. On va prendre
une question,
la question de Sylvie.
Oui.
Bon. Lisez-la.
Alors, la question de Sylvie de Toulouse qui demande « Lors de la cérémonie d'entrée en refuge, une mèche de cheveux est coupée. Quelle est la signification de ce geste ?»
Quelle est la signification du geste symbolique qui consiste, lorsque l'on entre en refuge, à couper au sommet de la tête une mèche de cheveux? C'est en relation avec ce qu'est l'entrée en refuge, qui signifie d'entrer dans une situation de non-peur. Refuge signifie non-peur. Le refuge est le lieu où l'on est protégé, où on est à l'abri de la peur. Et l'au-delà de la peur fondamentale et dans l'éveil. L'éveil est le lieu de la non-peur. Fondamentalement parce que c'est le lieu de la non-dualité, mais c'est aussi, lorsque l'on entre en refuge, la présence de l'éveil qui nous amène la guidance, qui nous amène la sécurité, qui nous amène l'accompagnement, qui nous guide dans la vie et qui amène cette protection et cette non-peur. Donc ça, c'est le sens du refuge d'une façon générale. Et particulièrement, le refuge, en tant que lieu de la non-peur, est la situation dans laquelle on peut s'ouvrir. C'est lorsque l'on est en sécurité que l'on peut s'ouvrir. Donc, l'entrée en refuge est entrer dans une protection, une situation de non-peur en laquelle on peut ouvrir son esprit, l'on peut ouvrir son cœur, l'on peut s'ouvrir. Et c'est, d'une façon générale, l'entrée sur la voie ou l'entrée dans la pratique. C'est entrer en refuge signifie donner à sa vie une orientation d'éveil, très simplement. Tourner sa vie vers l'éveil, s'orienter vers la lumière, s'orienter vers l'éveil. Et dans cette situation, si on l'exprime d'une façon rituelle et symbolique, ce qui n'est pas une obligation, mais ce qui se fait certaines fois, il y a un geste qui consiste effectivement à couper une petite mèche. Ce n'est pas une tonsure avec la tondeuse électrique, mais tout au sommet de la tête, coupe une petite mèche qui symbolise que l'on coupe les liens de l'illusion, que l'on coupe les liens de l'attachement. Et c'est le symbole aussi de la traversée, du voyage. C'est comme si on larguer les amarres en coupant ainsi ces liens d'attachement et de peur et commencer la traversée jusqu'à l'autre rive. C'est ce qu'exprime symboliquement cette mèche que l'on coupe. Et le précepteur qui officie lors de la cérémonie vous dit « Êtes-vous heureux que je coupe cette mèche ?» Entrer en refuge est un geste de bonheur, de joie, c'est une façon de donner sens à sa vie, et on le fait ainsi consciemment. Et êtes-vous heureuse ? Êtes-vous heureux ? On répond oui, autrement il ne coupe pas. Et si on dit oui, il coupe la mèche, et c'est le signe l'entrée en refuge. Voilà. Et à ce moment-là aussi, on reçoit un nom du Dharma qui... pourquoi recevoir un nom? Parce que notre nom est ce qui nous pose dans ce que nous sommes. Notre nom pose notre identité. Et on devient une nouvelle personne en entrant en refuge. Une personne qui s'est justement tournée vers l'éveil, qui a souhaité donner sens à sa vie sur la voie d'éveil. Et donc, étant ainsi devenue cette nouvelle personne, on reçoit un nom du Dharma qui exprime une notion positive de la voie qui nous pose et en tant que cette personne que nous sommes ainsi devenus et qui est pour nous un rappel, si on utilise ce nom, un rappel de cette orientation d'éveil que l'on a donnée à sa vie. Donc voilà, je réponds de façon courte pour donner la possibilité à des échanges. Donc après cette question de notre ami internaute, vous avez la parole si vous le souhaitez. Y a-t-il des points, des remarques parmi vous ?
Bonsoir Rinpoche. Récemment, sur Internet, j'ai vu une statuette de Virupa, avec les yeux écarquillés, avec le buste vraiment en arrière. Et durant ma pratique, en faisant Rombap, il m'arrive parfois d'avoir justement le buste en arrière. Et j'aimerais en connaître la signification, en fait, s'il y a une signification.
Alors, deux volets. Dans la posture, de méditation, il est bien et bon d'avoir le buste dégagé. On est assis dans une position confortable, il y a dans une verticalité, dans un axe qui va du point le plus haut au sommet de la tête jusqu'au plancher pelvien. Et donc, d'être ainsi bien droit, cette rectitude confortable et détendue amène un bon équilibre du corps et une bonne circulation du souffle énergie, favorise le bon positionnement et l'équilibre aussi de l'esprit. Et c'est une position, une posture ouverte. On n'est pas comme ça recroquevillé. On a les yeux ouverts, et même ouvert dans un regard large et panoramique. Et on a aussi le buste ouvert. Donc, une image traditionnelle qui décrit cela dit comme un poitrail d'épervier. Bon. Hein, comme si on avait les ailes déployées. Enfin, tout, ouvert. C'est une façon de dire que l'on n'est pas comme ça recroquevillé. Et dans une posture digne et ouverte, c'est très important. Et on a une bonne posture amène un bon équilibre et aussi un bon état d'esprit, pour faire simple. Donc, Virupa est un Mahasiddha, un des 84 Mahasiddhas de l'Inde. Les Mahasiddhas sont des yogis qui ont été des sortes de fous divins qui ont, dans leur réalisation, exprimé l'éveil de façon non conventionnelle. Virupa est l'un d'eux. Et Virupa a eu une histoire que l'on peut qualifié de non conventionnel. Et la statuaire qui le représente évoque cette histoire. Virupa était, dit-on, un grand buveur de bière. Et un jour, Virupa va dans une taverne et voyez, aubergiste, de la bière et de la bonne, s'il vous plaît. Et Virupa boit pinte sur pinte. Et après quelques heures, d'autant que la nuit arrivait, l'aubergiste lui dit peut-être pourriez-vous régler votre note. Virupa dit, je réglerai au coucher du soleil. Redonnez-moi de la bière. Et il continue à boire. Et puis, l'histoire continue. L'aubergiste, après quelque temps, le soleil décline peut-être que. Et Virupa fait un geste comme ça. Et il arrête le soleil. Et il dit, donnez-moi encore de la bière. Je paierai quand le soleil sera couché. Et l'histoire dit que c'est quelques jours après, sur intervention royale, que le roi va payer la note pour qu'il laisse le soleil se coucher. C'est pour ça que Virupa est représenté comme ça dans la statuaire qui le dépeint.
Très bien, je vous remercie. Je pensais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond en fait dans ce symbolisme, mais en fait c'est tout simple. Okay. Bah, encore de la bière alors.
Si vous avez la capacité de Virupa d'arrêter le soleil, ça peut être considéré, autrement, ce n'est pas conseillé. Et d'autre part, il y a dans la première partie de mon explication, dans la bonne posture, avec le poitrail ouvert et dégagé. Pour ce qui est des yeux, il y a aussi quelque chose de très important, qui est d'avoir les yeux ouverts. Dans la pratique de la méditation, la pratique de la contemplation, dans la pratique de la pleine présence, généralement, on n'a pas les yeux fermés. Il y a une tendance, mais c'est aussi assez occidental, méditation. Méditation, on se recueille, les yeux fermés, dans une attitude un peu pieuse, et comme ça. Ou simplement d'intériorisation. Alors, il faut faire attention, parce que c'est subtil, et ne pas caricaturer de façon déformante, mais la pratique de la pleine présence n'est pas une pratique d'intériorisation, contrairement à ce que l'on aurait facilement tendance à imaginer. Il ne s'agit pas de s'intérioriser, il ne s'agit pas de rentrer en soi, comme ça, dans son fort intérieur, en s'intériorisant et en se coupant dans une intériorisation forte de l'extérieur, par exemple. C'est même exactement le contraire. Il s'agit de s'ouvrir, une ouverture des sens, une ouverture sensorielle, tout ouvert. Et les yeux expriment aussi cette ouverture. Alors certaines fois, avec les yeux écarquillés, même presque, c'est le Sukhasiddhi, et dit avoir les yeux écarquillés. Alors, bon, ce sont des images pour évoquer des attitudes, il ne s'agit pas de circuler comme ça, avec des yeux de grenouille ou de merlan frit. Mais dans la pratique assise, on apprend à avoir le regard panoramique. Très important, le regard panoramique. Ce qu'on appelle le regard panoramique est une attitude, les yeux ouverts, détendus, sans saisir, sans que l'accommodation saisisse quelque chose de particulier, et par là même en ayant un champ de vision large, on pourrait dire à 180 degrés. Quand on est dans une disposition circulaire, comme nous le sommes maintenant, on a une vision diffuse de tout le cercle. Là, présentement, je ne regarde pas l'un d'entre vous particulièrement, mais j'ai une vision globale. Si je fais cela, je vois aussi bien ma main droite que ma main gauche bouger. Cette vision large, vision ouverte, vision panoramique. Cette vision panoramique est très importante. C'est l'open mindfulness, la présence ouverte. Et c'est par la vision, par ce regard, que l'on peut toucher l'ouverture des sens. Et l'ouverture visuelle amène aussi une ouverture des autres sens. Ça, c'est l'enseignement intérieur de Virupa. Et Virupa fut le maître de Sukhasiddhi. Et s'il y a d'autres remarques au point que vous auriez aimé que nous abordions.
Oui, justement, à propos de l'ouverture par les sens, on arrive assez bien à comprendre, à expérimenter par rapport au sens externe. En revanche, le sens interne, c'est un petit peu plus obscur. Est-ce que vous pourriez expliquer comment on procède dans l'expérience pour faire une ouverture par le sens interne ?
L'ouverture des sens dans tous les sens. Alors, nous avons six sens. Cinq sens externes, un sens interne. Les cinq sens externes sont deux sens lointains et trois sens de proximité. Les sens externes lointains étant l'ouïe et la vue. On entend de loin, on voit de loin. Les sens externes de proximité sont l'odorat, et il faut être relativement près pour sentir. Ensuite, il y a le toucher qui demande un contact direct, et il y a le goût qui demande même une intégration de l'objet senti, ou de ce qui est senti. Ce sont les sens de proximité. Et le sens interne, c'est le mental. Le mental est un sens. Et tout comme, si l'on prend l'exemple de la vue, il y a une conscience visuelle qui perçoit les objets visuels. Dans le cadre du mental, il y a une conscience mentale qui perçoit les objets mentaux. Les objets mentaux étant les pensées. Mais il y a la même situation dans la vue que dans le mental, au sens où il y a, si on prend l'exemple de la vue de nouveau, il y a la conscience visuelle, observatrice, il y a la faculté visuelle, il y a l'objet visuel, il y a un sujet-objet, conscience dans la circonstance sujet, et un objet visuel, observateur-observé. Dans le mental, il y a la même situation. Il y a la conscience mentale avec les pensées observées. Il y a penseur et pensée, sujet et objet. D'accord? Et alors, effectivement, la question est plus subtile dans le mental, mais elle se pose en des termes analogues. La relation aux événements mentaux, aux pensées, est aussi une relation ouverte. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous étiez en train de chanter la prière de Guru Rinpoche, la prière d'auto-libération. Et un des derniers, l'avant-dernier quatrain, dit « Ici, tout ce qui est mouvement du sens interne. » Et ça continue comment on est ? Ici, tout ce qui est mouvement du sens interne, toutes les... Qu'est-ce qui m'aide ?
Conceptions qui émergent.
Toutes les conceptions qui émergent. Alors, allons doucement. Ici, ça veut dire ici, maintenant, dans notre situation présente, tout ce qui émerge dans le sens interne, le mental, toutes les conceptions, toutes les pensées, tout ce qui peut émerger dans ce sens interne. Comme aussi poison, alors comme émotion, parce que les pensées, lorsqu'elles sont saisies, deviennent attraction, répulsion, indifférence, désir, colère, attachement, deviennent toutes sortes de relations conflictuelles, passionnelles. Donc, tout ce qui émerge en termes de pensée ou d'émotion, pour faire simple. Que dit Padmasambhava, Gaurimache ? Ne les fuit ni ne les suit. Il ne s'agit pas de les fuir, d'en avoir peur, de se distancier, de créer de la distance en les refoulant, distanciant, ni ne les suit, ni ne les saisir dans un processus de suite. Donc, ni fuir, ni suivre. Ni aller au-devant, ni se sauver, ni partir. Donc, en bref, ne rien faire. Apprendre, eu égard à ses pensées ou à ses émotions, à ne pas intervenir avec celle-ci. Ne pas intervenir vraiment s'accomplit si l'on n'est pas là. Si l'on n'est pas là, j'étais pas là, j'ai rien fait. J'ai rien pu faire, j'étais pas là. Et donc, c'est en n'étant pas là que l'on ne fait rien pour sûr. Mais c'est un peu radical, peut-être difficile de ne pas être là sur le champ. Donc, plutôt que de ne pas être là, ou de prétendre qu'il en serait ainsi, l'on apprend à expérimenter les pensées et les émotions sur un mode ouvert. Dans une simple observation. Une simple observation. Une nue vision, on dit aussi. C'est-à-dire une nue observation, une nue expérience. Une expérience toute simple, toute nue. Une expérience détendue, sans jugement, et qui, dans son ouverture, a tendance à, quelque sorte même, se rapprocher ou se fondre dans la pensée ou l'émotion. Mais le point est une nue vision, une simple observation. Et c'est une observation ouverte. Cette observation, cette nue vision, se vit dans un état d'ouverture. Et je vous disais que la vision panoramique amène l'ouverture panoramique, l'ouverture de la vision panoramique, amène aussi une ouverture des autres sens. Si vous êtes dans la vision panoramique, vraiment détendu, voyez comment ça se passe dans le mental. Mais pour celles et ceux qui sont dans la session de pleine présence, c'est l'un des exercices que vous allez faire, que vous allez pratiquer. Dans ce regard panoramique, en s'y étant relâché, abandonné, détendu, comment ça pense? Comment est la pensée? Mais c'est une expérience importante, intéressante, que néanmoins on évite généralement de présenter au début, parce que ça peut être contre-productif. Pratiquez le regard panoramique tout simplement. Détendez-vous, restez détendu dans celui-ci et vous en découvrirez petit à petit les effets ou les effets secondaires. C'est mieux de les découvrir directement. S'il vous plaît.
Bonsoir, Zarine Potcher. J'ai une question d'un internaute. De Jean-Louis, il y a de Chambéry, il y a qui vous demande. Le Bouddha a fait tourner 3 fois à la roue du Dharma, la première fois à Sarnath, la seconde au pic des Vautours, mais il n'y a pas d'indication concernant la troisième fois. Jean-Louis vous demande des précisions sur le lieu. Et...
La troisième fois, c'est en des lieux variés. Voilà. En des lieux divers et variés. Donc, ça c'est pour la localisation, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces 3 tours de roue, ces 3 cycles de l'enseignement, le premier cycle est celui sur les 4 nobles réalités. Alors, effectivement, à Sarnath, après son éveil et devant ses anciens compagnons d'ascèse, le Bouddha a exposé son premier enseignement, qui est, on pourrait dire, la thérapie sacrée, sur un modèle thérapeutique, avec la constatation d'une maladie, le mal-être, malaise, disharmonie, dukkha en sanskrit. Dukkha, c'est quand ça tourne pas rond, en bref. L'origine du mal-être, l'origine de la maladie qui est dans notre esprit, dans la saisie. Alors ça, c'est un diagnostic très important. La troisième noble réalité est la santé. Le mal-être, la souffrance existent, c'est une réalité indéniable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se guérir. Que la maladie n'est pas une fatalité, mais c'est juste comme une maladie physique, un déséquilibre, un dysfonctionnement dont on peut guérir et l'on peut accéder à la santé fondamentale qui est l'éveil. Et la troisième noble réalité est celle de la thérapie proprement dite en 3 volets, qui est la discipline ou l'éthique, la discipline de vie, l'expérience profonde, la pleine présence, et la compréhension de la nature de la réalité dans l'expérience immédiate de pleine présence. Et la pleine présence est le cœur de l'apprentissage, le cœur de la thérapie. C'est la pleine conscience, pleine présence qui permet d'être, de vivre une vie disciplinée, en étant attentif, attentif à ce que l'on fait, responsable, attentif. C'est aussi le cœur de l'expérience profonde. La pleine présence, c'est une présence ouverte, permet de sentir, permet d'expérimenter de façon directe, immédiate, dans le retrait, la transparence des projections. Et c'est dans cette expérience directe et immédiate aussi que peut se comprendre la réalité profonde de ce que je suis, de ce que je vis, de la nature de l'esprit, de la nature de la cognition. Donc ça, c'est le premier cycle d'enseignement du Bouddha. Et ensuite, ultérieurement, il a enseigné le cycle de la vacuité. La vacuité, c'est-à-dire le non-appui. Il peut y avoir beaucoup de sens à vacuité. Vacuité, c'est le vide des distances propres, le vide des distances indépendantes, l'affirmation de l'interdépendance universelle. Mais c'est aussi et particulièrement dans une perspective expérientielle, le non-appui conceptuel. Et c'est aussi la raison pour laquelle la tradition du Bouddha est une tradition fondamentalement non dogmatique, non théiste, non dogmatique et on peut dire aussi non confessionnelle, ce qui à Bruxelles aujourd'hui signifie laïque, au sens où l'expérience profonde, l'éveil et la réalisation ne dépendent pas d'appuis conceptuels, sont une expérience aconceptuelle, transcendant les noms et les formes, transcendant les concepts. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de concept pour communiquer, et bien sûr, mais la réalité n'est jamais réductible à une formulation conceptuelle, quelle qu'elle soit. Et vouloir enfermer la réalité dans un énoncé conceptuel défini, danger, danger, illusion dangereuse, dangereuse illusion. Et dans les enseignements de la vacuité, le Bouddha a montré comment les appuis conceptuels, tout nécessaire qu'ils soient et utiles qu'ils soient au niveau relatif, sont foncièrement toujours imparfaits, limités et finalement illusoires. Et c'est ainsi qu'il a amené cette approche déconstructive du Madhyamaka qui déconstruit toute élaboration conceptuelle permettant une percée dans l'immédiateté aconceptuelle. Ça, c'est les enseignements de la vacuité, au pic des vautours. Et c'est aussi le cœur des enseignements de la Prajnaparamita, de la perfection d'intelligence. Et puis, il y a eu un troisième cycle qui est, lui, alors, comme on l'a dit, enseigné en des lieux divers et variés, et qui met en évidence la plénitude de la vacuité. L'expérience aconceptuelle, l'expérience de non-appui, n'est pas une expérience vide, dans une sorte de rien que vide, une absence, un manque, une négation. Il y a dans cette expérience est une expérience de plénitude. le vide, qui est le vide de dualité, qui est le vide d'illusion, et plénitude de la réalité et plénitude de l'expérience éveillée, et plein de qualités, et plein des qualités de l'éveil, plein des qualités éveillées. Et c'est le troisième cycle des enseignements sur la nature de Bouddha et la plénitude des qualités éveillées de cette nature éveillée ou nature de Bouddha. Donc voilà, en des lieux variés. Oui.
Après de nombreuses années de pratique bouddhiste, je n'ai jamais. Je vais parler un peu fort.
On vous entend bien, oui, s'il vous plaît.
Je voudrais poser une question ce qui concerne la réincarnation. Et je m'interroge si ce fait de réincarnation implique une croyance quelque part aveugle. Dans la mesure où celui qui meurt. Ne revient pas pour dire que ça existe. Et que c'est. Je vois culturellement que ces entre guillemets croyances sont différentes. Pour certains, ça existe, pour certains, certains n'en ont jamais entendu parler. Et c'est pas une question qui m'a vraiment tourmentée, mais comment puis-je pratiquer bon, depuis si longtemps sans je n'embrasse pas cette. Entre guillemets, croyance que je respecte profondément l'idée, mais je ne peux pas y adhérer.
Je vous dirais que ça n'est pas un problème. Et pour vous mettre à l'aise, alors, il y a effectivement, c'est un classique, c'est un pensée. Ah, vous êtes bouddhiste, alors vous croyez à la réincarnation. Ah non, pas du tout, surtout pas. Surtout pas. La réincarnation, alors certaines fois, est une croyance. Effectivement, il y a des versions populaires, et bien populaires, qui exposent les choses. Un petit peu, tout se passe comme si il y avait une sorte de renaissance. D'abord, réincarnation n'est pas un terme traditionnel, même s'il est aujourd'hui pas mal utilisé en langue occidentale. Ce que le Bouddha a enseigné, c'est la renaissance. Et ce n'est pas la réincarnation. Réincarnation a un sens très charnel, de retour dans la chair, incarnation. Donc, je vous disais tout à l'heure que la tradition du Bouddha n'est pas dogmatique. Il n'y a pas de croyance, ni en la réincarnation, ni d'ailleurs en quoi que ce soit d'autre. Il y a une démarche expérimentale et de connaissance, d'expérience. Donc, pour être concis et répondre aussi plus à votre question, qu'est-ce que le Bouddha a enseigné ? Donc, ce n'est pas la peine de croire à la réincarnation. Il y a des tas de problèmes dans cette histoire. Ce que le Bouddha a enseigné, c'est qu'il est une continuité causale du passé au présent et du présent à l'avenir. Dit autrement, le présent est le résultat du passé, c'est pas un problème, et ça se comprend, et le passé détermine l'avenir. Se comprend aussi. Une image que l'on utilise certaines fois, c'est une partie d'échec. Par exemple, Vous êtes au milieu d'une partie, le profil de la partie à l'instant T présent est le résultat des coups qui ont été joués précédemment. Et le profil de la partie peut être plus ou moins avantageux ou désavantageux. Il y a toujours, par contre, dans l'instant présent, une part de liberté, et cette part de liberté va influencer l'évolution ultérieure et l'issue de la partie. Donc, l'idée est qu'il y a une relation causale du passé au présent et à l'avenir, et qu'il y a dans le présent toujours une part de liberté, une part de libre arbitre. Quand on dit une part, ça veut dire qu'il y a aussi une part de conditionnement. Nous ne sommes pas 100% libres. Nous avons des tendances, nous avons des propensions qui nous déterminent. Alors, on est plus ou moins libre ou plus ou moins conditionné. Mais il y a toujours une liberté. Si tu veux voir ce que tu fais, vois ce que tu es. Et si tu veux savoir ce que tu seras, vois ce que tu fais. Hein? Le présent dépend du passé, l'avenir dépend du présent. Alors, dit autrement, déjà dans une formule un petit peu plus... Il faut faire attention aux formules. Elles sont justes, elles sont fortes, mais elles ont toujours leurs limites. On récolte ce que l'on a semé. Et le présent est le résultat, en ce sens, du passé. Et c'est ce que l'on sème dans le présent que l'on récoltera dans l'avenir. Donc, ça, c'est une façon de présenter la relation de cause à effet, le karma. Et alors, qu'est-ce qui renaît, ou qu'est-ce que la renaissance, comme l'a enseigné le Bouddha, c'est la continuité de la vie. La vie, dans la perspective traditionnelle du Dharma, n'est pas linéaire, d'un alpha à l'oméga, de la naissance à la mort, comme s'il y avait un début premier avec la naissance et une fin dernière avec la mort. Mais la vie est cyclique. Alors, cyclique comme le sont les cycles de la nature, comme le sont les saisons. Cycle de la nature, une graine pousse, croît, fleurit, fructifie, et le fruit est de nouveau graine, et il y a ainsi un cycle. Ou dans les saisons, printemps, été, automne, hiver, printemps, etc. Donc, la vie est un cycle avec des apparitions et des disparitions, des croissances et des décroissances, des émergences et des disparitions. Et il y a ainsi une continuité de la vie dans des transformations, une continuité sans entité. Il n'y a pas d'âme qui transmet, là. Le Bouddha a enseigné que l'âme était une illusion, et on n'a jamais trouvé la petite boîte noire indestructible qui, d'une vie à l'autre, passerait d'un corps à un autre, ou l'âme d'un humain tirait dans un éléphant, ou pire, tirait dans une fourmi, imaginez. Il n'y a pas d'entité, mais il y a une continuité sans entité. Et à la fois, il y a ainsi, il n'y a pas de réincarnation d'une entité, d'un ego, moi qui reviendrai, coucou, c'est mon cœur là. Même s'il y a des versions populaires qui sont comme ça, je sais bien. Et c'est pour ça qu'il est bon d'en sourire. Et pourtant, il y a une sans entité, sans individualité, il est une continuité qui fait que l'on récolte ce que l'on a semé et qu'il y a ainsi une responsabilité. Et que nous sommes par là même responsables. Nous avons la responsabilité de transformer ce que nous sommes et nous avons la responsabilité de nos actes qui peuvent amener une bonne ou une mauvaise évolution à venir. Est-ce que vous me suivez dans tout ça ?
Je vous suis très bien.
Bon.
Bouddhiste, c'est cette paix et force du présent. Qu'importe finalement, enfin, oui, il y a la cause et l'effet, mais c'est l'après-mort qui m'intrigue de cette interprétation, ce qui concerne les tout le coup, où j'entends dire t'as dû être ça dans une autre vie, je n'en comprends pas l'importance, alors que l'importance, c'est le simple présent finalement, et encore, c'est peut-être même pas important.
En tout cas, nous sommes. Il y a des interprétations, effectivement, qui ne sont même pas vraiment des interprétations traditionnelles. Là, vous citez les Tulku, vous citez aussi des personnes qui vous disent ah, j'ai été ceci, j'ai été cela. L'histoire des Tulku, très répandu dans la culture tibétaine. C'est quelque chose de purement culturel, ça n'est pas traditionnel. C'est un mode de succession et de transmission d'héritage, pour faire simple. Après, en Occident, dans les milieux New Age, il y a beaucoup... Ah ben, on fait du rebirthing, et on se souvient de vie antérieure ou de choses comme ça. La réminiscence d'existence antérieure peut être en termes psychologiques un bon support d'élaboration et de réminiscence, d'anamnèse, très bien, mais après il faut voir ça avec aussi un petit peu le sens de l'humour. Dans le passé, dans les HP, il y avait plein de gens qui se prenaient pour Napoléon, Marie-Antoinette, Cléopâtre, etc. Aujourd'hui, on se souvient avoir été... alors, il y a des versions plus ou moins glamour ou plus ou moins trash, mais c'est plus... ça n'est, prendre ça de façon matérialiste réaliste comme ça, ça n'est ni l'enseignement du Bouddha ni une bonne chose. Je vous propose à ce point, alors c'est une dernière question si vous voulez.
Je voulais savoir la conscience dont vous parlez tout à l'heure, qui est sujet observant les pensées, est-elle celle qui va devenir claire lumière chez l'ennemi ? Et pour rejoindre la question de la personne sur les vies antérieures, est-ce que le continuum de conscience va...
Si. Enfin, alors, déjà, il y a une conscience, il y a un continuum de conscience. Et c'est important de comprendre, c'est que la conscience est un état cognitif, une modalité cognitive. Qu'est-ce que la conscience ? C'est cet état cognitif dans lequel il y a connaissance de, expérience de. il n'est à proprement parler, et c'est comme ça que ça se définit traditionnellement, de conscience que de conscience de, c'est-à-dire un mode de cognition duel, dualiste, sujet-objet. Le sujet étant conscient d'objets, d'objets sensoriels, visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs, tactiles ou mentaux. La conscience est l'état de l'esprit habituel, esprit duel, dualiste. La claire lumière que vous évoquiez est la nature de l'esprit, la nature de la conscience. C'est la conscience lorsque celle-ci n'est plus dans une expérience dualiste. Là, c'est quelque chose qui est assez difficilement concevable. C'est un état de conscience inconceptuel et il est difficile, ça peut se comprendre, de concevoir le non-conceptuel. Mais la claire lumière, ce que l'on nomme claire lumière, est une intelligence qui se comprend en elle-même, une clarté qui est lucide d'elle-même en elle-même. Alors, on peut parler, oui, si vous voulez. Être et exister, il faut faire très attention. Après, là, la claire lumière n'existe pas. Alors, on peut dire, ah bon, elle n'existe pas, elle est. Alors, on fait des fois cette distinction de l'être au-delà de l'existence, hein, qui se tient hors de l'être. La claire lumière, on ne peut pas dire qu'elle soit, on ne peut pas dire qu'elle est, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas. Il n'est pas juste non plus de dire qu'elle est et n'est pas, et il n'est pas non plus juste de dire que ce n'est pas qu'elle soit et ne soit pas. C'est-à-dire que vous épuisez dans ainsi toutes les propositions logiques d'être ou de non-être. Et la réalité dont il s'agit n'est pas dans un appui conceptuel en termes d'être, de non-être, de leur conjonction ou de l'absence de celle-ci. C'est inconceptuel. Un petit instant de pause. Une petite pause. Confortable, détendu, dans le regard large, ouvert, panoramique. Une ouverture des sens complète, relâchée. Présence ouverte, tout simplement. Au repos, ainsi. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir.